C'est un peu difficile à traduire en français, mais sinon par paraphrase. En hébreu, ça signifie « ma'aman », dans le sens d'ailleurs que ce terme a dans l'hébreu moderne aussi, le fait de participer à un événement important, à « ma'aman ». Regardez bien la racine. La racine vient du... l'expression vient de la racine « la'amod ». Le peuple s'est tenu debout au Sinaï. Et d'ailleurs, il y a là un double événement, un événement de unité de l'Assemblée des Bnei Israël, de l'Assemblée d'Israël, comme dit le Midrash, et un événement de révélation de Dieu à l'Assemblée d'Israël, parce qu'il y a eu unité de l'Assemblée d'Israël. Je ne vais pas revenir sur le détail des références précises, en particulier vous avez le commentaire de Rashi sur le verset qui indique que le peuple s'est unifié au Sinaï. Il y a eu de très rares moments d'unité vraiment dans l'histoire d'Israël, et un de ces moments, ça a été le Mahamad Arsinaï. Il y a donc, si vous voulez, deux dimensions à l'événement qui sont extrêmement liées. Il y a une réciprocité. La Shrina se dévoile en Israël lorsque il y a unité en Israël. C'est un enseignement qui se trouve dans Pirkei Avot au nom de Rabbi Hanina, Sgan HaKohanim, qui montre que lorsqu'il y a unité en Israël, la Shrina se dévoile. Je vais expliquer ce terme. La Shrina est toujours présente, mais pas forcément dévoilée. Et il y a une grande différence de réalité entre le fait que il y a dévoilement ou non de la Shrina. Au Mahamad Arsinaï, ça a été un de ces événements. J'ai l'habitude de dire depuis la guerre des six jours que très probablement ça a été le deuxième événement d'expérience d'unité du peuple d'Israël, comparable peut-être au Mahamad Arsinaï. Il y a d'ailleurs une Gemara dans la Maseret Sanhedrin qui indique que la Aliya de la Galoute en Israël, et c'est relié en allusion à la Aliya de Ezra, est comparable à la Aliya de Moshe au Sinaï. Les deux versets, c'est Vayahal, pour Ezra c'est Vayahal, et pour Moshe Rabbeinu c'est Ou Moshe Allah et la Elohim. Et la Gemara établit une relation très, très précise, de même que la Aliya de Moshe, c'est révélation de Torah, de même la Aliya de Ezra, c'est aussi révélation de Torah. Il faut bien, encore une fois, vous percevez par vous-même dans ce type d'enseignement à quel point il faut le comprendre exactement dans la forme même dont il a été dit en hébreu. Et ce dont il faut se rappeler, c'est que, c'est d'ailleurs le contexte de la Gemara dans lequel c'est enseigné, c'est que la relation de Ezra à la Torah est identique, d'après la Gemara, à la relation de Moïse à la Torah. La phrase exacte de la Gemara est la suivante. Jacob Ayaraoui, comment on traduit ça, ça m'échappe. Din, Apt, c'est les deux et c'est un peu plus. Teraoui, que la Torah lui soit révélée. D'après le verset Torah, Sivalanu Moshe Moachakiat Yaakov, Ezra aussi était Raoui que la Torah soit révélée par son entremise, plus exactement. Et la Gemara explique, pour Jacob, ça n'a pas été révélé, la Torah n'a pas été révélée à la génération de Jacob, parce que la génération n'a pas mérité. Et pour Ezra, elle n'a pas été révélée à travers Ezra, par l'entremise d'Ezra, parce qu'elle a été déjà révélée à travers, par l'entremise de Moïse. Je voudrais très rapidement expliquer cela, surtout le premier point. Le mérite de la génération, l'expression du scrutador, le mérite de la génération par rapport au premier point de l'enseignement, que c'est au temps de Jacob que la Torah aurait pu déjà être révélée. Parce que Israël est déjà une entité collective, la famille de Jacob, qui reçoit le nom d'Israël, et qu'on attend, c'est tout un problème ce « on », mais c'est pour aller rapidement, la constitution d'Israël en tant que collectivité pour que la Torah soit révélée. Comment la Gemara peut dire c'est une génération qui n'a pas eu de mérite s'il s'agit de la génération d'Israël de ce temps-là. Les 12 enfants de Jacob et leur père qui sont tous des tzadikim. Ça nous fait comprendre que lorsque la Gemara dit le mérite de la génération, c'est beaucoup plus large que simplement la génération du peuple d'Israël. C'est la génération de l'humanité en ce temps-là. Il y a une corrélation extrêmement importante entre Israël et l'humanité de son temps, entre l'humanité et Israël de son temps. Il y a une phrase de la sagesse rabbinique qui dit que je vais la citer simplement en paraphrase, que les juifs ont les goïms qu'ils méritent et que les goïms ont les juifs qu'ils méritent. C'est plein d'enseignements d'ailleurs, cette formule. Il y a aussi d'autres exemples qui méritent quoi. Et en fait, ça signifie que c'est la génération de l'universel humain au temps de Jacob qui n'est pas encore apte à ce que la Torah soit révélée à travers Israël. Donc il y a un mérite particulier de la génération du temps de Moïse, non seulement la génération d'Israël lui-même, mais la génération de l'humain, la civilisation humaine en ce temps-là. Et un jour on reprendra peut-être ce thème, c'est à indexer, à relier à une des questions difficiles: pourquoi l'Égypte et le pharaon de l'Égypte de ce temps-là occupent une telle place dans le récit de la Torah? Ce n'est pas n'importe quel temps, ce temps de la civilisation égyptienne d'où Israël est sorti. Je vois, peut-être dans l'avenir on parlera du temps de la civilisation universelle, mais focalisée surtout en Europe, d'où la Aliyah présente s'est réalisée. Bon, c'est un autre sujet. Et alors, rappelez-moi pourquoi j'ai cité cette parenthèse-là. Oui, mais pourquoi j'ai cité ça?
La relation de Moshe et Ezra.
Oui, mais ça, tout ça, pourquoi je le cite? Qu'est-ce que vous répétez la même chose. Pourquoi j'ai cité cette Gemara de Sanhedrin? Qu'est-ce que je disais juste avant? Ah oui, c'est exact. Effectivement, bon, on va attendre 2 minutes qu'on soit plus dérangé par les juifs messianiques. Effectivement, il y a de très rares moments dans l'histoire, si vous voulez, qu'on peut désigner une unité réelle du peuple d'Israël. Ça pose un problème que je vais poser tout de suite, pour l'éclairer. Mais on peut dire, pour ceux qui ont vécu les événements qui ont précédé et les événements même de la guerre des six jours, il y a eu une expérience d'unité exceptionnelle. Alors donc, ça m'a fait penser à ce rapprochement que la Gemara fait dans Sanhedrin entre Moïse et Ezra. Et pour dire tout de suite qu'il faut se souvenir que Ezra a reformulé l'enseignement de Moïse pour la génération qui commence, le temps du deuxième temps, du deuxième royaume de Juda. Et on a l'habitude de citer le verset, je n'expliquerai pas trop en détail, mais Aïn Yabo Ezri. D'où il y a un verset qui pose la question: d'où viendra mon secours? La réponse c'est que le secours est venu de Ezra. C'était un temps où Israël et la Torah étaient très très séparés, et puis c'est grâce à Ezra, au temps de la Aliya de Shivat Tzion, que le peuple d'Israël s'est retrouvé relié à la Torah après la catastrophe de la destruction du premier temple. Bon. Et alors, j'espère arriver ce soir à reprendre en partie ce problème dans le deuxième point. Nous allons d'abord étudier un premier point sur un verset de la Bracha de Mishpatim, qui est un enseignement extrêmement important sur l'unité de toutes les parties de la Torah, en tant que, bien que cette révélation de l'ensemble de la Torah se distribue à travers tout le temps de la prophétie. Je voudrais retirer le terme de prophétie, parce que les maîtres de la Torah, non, c'est un tout autre sujet que je vais expliquer pourquoi j'hésite. Le prophète, aucun prophète n'a le droit de modifier une disposition de la Torah, sauf cas exceptionnel, et nous avons les exemples où une disposition de la Torah est modifiée par un prophète. Mais c'est toujours provisoire. La Torah doit être donnée par les Chachmé Israël et pas par les Neviyé Israël. Il y a le cas particulier de Moïse qui est à la fois le maître des Chachamim et le maître de tous les prophètes. C'est le cas particulier de Moïse. Mais quoi qu'il en soit, la Torah est révélée à travers le temps de l'histoire, à travers le temps des Chachamim, en particulier à l'époque où il y a eu prophétie. J'avais trop raccourci l'explication. Et j'ai encore pensé à autre chose. Rappelez-moi de quoi je parlais juste avant. Oui, il ne faut jamais arriver en retard. De quoi je parlais juste avant? La relation entre Ezra et... Oui, la reformulation de Torah par Ezra, qui est au niveau de l'enseignement donné par Moïse. Oui, alors le premier point que nous allons étudier, c'est un verset, et vous allez prendre tout de suite la référence dans la page qui vous a été donnée, qui parle de l'unité de l'ensemble des parties de la Torah. Le problème, je m'y retrouve, c'est qu'on a l'habitude de définir Torah Missinaï, et on a tendance à définir Torah Missinaï uniquement en relation avec les 10 commandements. Et nous allons voir une Gemara sur un verset de notre paracha qui indique que l'ensemble des différents plans, niveaux, secteurs de la Torah sont Missinaï. Alors donc c'est la page 5 de la Mesrette Brachot. Je vais vous donner le verset. Bougez pas. Alors, le verset se trouve dans le chapitre 24. Alors, prenez le chapitre 24 et je vais vous donner le numéro du verset. Le verset 12. Prenez au chapitre 24, verset 12. Deuxième point, donc dans le deuxième point, je reprendrai d'une autre manière la question du Mahamad Arsinaï. J'espère que j'ai suffisamment expliqué le terme de Mahamad tout à l'heure. Et ça veut dire que Israël se constitue en unité dans l'événement du Sinaï. Et dans cet événement, je répète, il y a deux dimensions extrêmement importantes. Le fait que la collectivité d'Israël représente déjà en préfiguration l'unité de l'ensemble de l'humanité, et donc Dieu peut se révéler. Et retenez simplement la différence entre ces deux expressions que j'ai employées, la présence de la Shrina et la présence dévoilée de la Shrina. Il y a des moments où les facteurs négatifs font que la Shrina est occultée. Et il y a aussi deux niveaux de l'occultation de la Shrina. Encore une fois, sa présence reste présente, mais cachée. Et alors, ça s'appelle Hastara et Hastara Beto Hastara. Ça veut dire qu'il y a une occultation, et il y a une occultation au second degré. Le fait que la Torah soit occultée, ce fait même là est occulté. On apprendra à propos de Kippour, c'est-à-dire à propos de Purim, puisque c'est à ce propos que le verset dit « Aster, Astir, Panay, Mekem » et il y a donc, à partir de ce verset, l'expression « Astara, Betor, Astara ». Je voudrais citer un enseignement du Rav Nachman de Breslav. Il dit que, en définissant l'éloignement entre la créature et le créateur, il y a un premier niveau où la créature est éloignée du créateur en sachant qu'elle est éloignée du créateur. Mais un niveau beaucoup plus grave, la créature est éloignée à la présence du créateur, c'est-à-dire elle ne sait même pas qu'elle est éloignée du créateur. Est-ce que vous voyez l'analogie? J'aimerais une autre analogie. Il y a, qui est enseignée dans la Gemara, et qui peut être liée d'ailleurs à la situation d'exil, qui est aussi une situation d'esterpanim. C'est le fait que lorsqu'un malade sait qu'il est malade, on peut le soigner. Mais si un malade ne sait même pas qu'il est malade, c'est impossible de le soigner. Surtout lorsqu'il s'agit de maladie du nefesh, et beaucoup plus que du mal. Et alors par rapport à l'exil, vous comprenez par vous-même, quelqu'un qui est en exil et qui sait que c'est en exil qu'il est, il est en exil. Mais quelqu'un qui est en exil et qui ne sait même pas que c'est en exil qu'il est, alors là c'est vraiment l'exil. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Bien. Et alors, à ce propos, on étudiera un verset qui se trouve trois fois, deux fois sous la même forme et une fois une forme un peu plus ample. C'est lorsque le peuple d'Israël, au Mahamad Arsinaï, a dit « Tout ce que Dieu dit, nous le ferons ». Il y a deux fois pour la chair d'Iber Hachem Naaseh, une fois dans la paracha de Yitro, une fois dans la paracha de Mishpatim. Et dans notre paracha de Mishpatim, dans le même contexte, il y a une troisième fois que la chair d'Iber Hachem Naaseh Venishma. J'espère que j'arriverai à ce deuxième point d'étude. On va tout de suite commencer par le premier. Alors, prenez votre texte de la Gemara. Je vais commencer par traduire les premières phrases qui ne concernent pas directement notre sujet, sinon par ce qu'on appelle en hébreu dans l'étude du Talmud « Mahalach HaSvaot ». Qui peut m'aider à traduire ça en français ?« Mahalach HaSvaot », le déroulement des étapes du raisonnement. C'est trop abstrait ça en français, mais « Mahalach HaSvaot », ça indique que une étape du raisonnement induit déjà l'étape suivante. Vous allez voir d'ailleurs dans l'expérience même de l'étude l'importance de ce problème. Très souvent, vous avez dû entendre ou lire, c'est une hypothèse très répandue dans les milieux, disons, universitaires qui s'occupent d'études juives, que le Talmud est un amalgame d'enseignements divers et variés par association d'idées. Nous allons avoir un petit exemple ici. Ça vaudrait la peine une fois d'étudier une page un peu plus difficile, pour que ce soit encore beaucoup plus évident. Qu'il y a une organisation de l'enseignement d'une rigueur absolue d'un sujet à l'autre. Très souvent, ceux qui ont étudié le Talmud tout seul, qui ont mal étudié le Talmud, pensent que lorsque l'on cite l'enseignement d'un arabe du Talmud, puisqu'on l'a déjà cité par association d'idées, on cite un deuxième enseignement du même rave, sans que ça n'ait aucun rapport. C'est justement, uniquement, comme je viens de dire, association d'idées. Vous verrez que c'est complètement faux. En réalité, il y a une ordonnance du Mahalach Sevaot qui est d'une rigueur absolue. Alors, je n'aurai pas le temps de voir ça dans les détails, mais j'espère suffisamment le suggérer. Bien, alors regardez sur votre texte. On commence par un enseignement à propos du Kriyat Shema du soir. Et, encore une fois, je vous répète, ce que je veux dire là est très succinct, ne croyez pas du tout que c'est le fond de l'étude, même en première lecture, même en première approximation de ce texte. Mais il y a une première question. Vous savez que l'on dit le Kriyat Shema, c'est-à-dire la proclamation de l'unité de Dieu, le soir et le matin. D'après le verset qui dit « Vedibarta bam » et tu en parleras de ces paroles « Shema Yisrael Hashem Elokeinu Hashem Echad »« Beshor Becha Ubkumecha » On établit dans un autre texte du même traité que « Beshor Becha » en te couchant, ça ne signifie pas au moment où chacun va dormir, à quel que soit le moment. Ça signifie au moment où on a l'habitude de se coucher, c'est-à-dire le soir. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire on cherche la règle objective pour la communauté. C'est pas, par exemple, si quelqu'un va s'endormir au milieu de la journée, il ne va pas dire le Kriyat Shema de Ushur Becha en te couchant. Bien que ça soit écrit en te couchant. Vous voyez qu'il y a une opinion de Beit Shammai qui dit, bon, il s'agit du soir. Mais le Kriyat Shema du soir, il faut le dire couché, parce qu'il y a écrit en te couchant. C'est pas la halakha, mais c'est une opinion possible aussi. Alors, à propos, et en te levant, ou koumecha, c'est le matin. L'expression est la suivante. Quand est-ce bechorbecha, c'est au temps où on a l'habitude de se coucher. Et on apprend ici un derechevet important. Il est normal, il devrait être normal de s'endormir avec le coucher du soleil, au moment du coucher du soleil. après avoir accompli les mitzvot de ce temps-là. Mais aujourd'hui, nous vivons une vie artificielle parce que le jour et la nuit est masqué. La différence entre le jour et la nuit est masquée par la lumière électrique qu'on peut allumer, qu'on peut éteindre, qu'on peut rallumer. On ne sait même plus qu'est-ce un crépuscule. Enfin, les paysans savent encore, mais vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, à propos du Kriyat Shema du soir, on va apprendre qu'il y a deux Kriyat Shema du soir différents. Il y a d'ailleurs deux Kriyat Shema du matin différents. Là, je vais poser une question pour ceux qui sont habitués à faire la prière. Quels sont ces deux Kriyat Shema du matin?
Il y a le
Je suis persuadé que tu as compris, toi. Je suis persuadé que tu as compris ce que tu as dit, toi. Moi, j'ai pas compris. Alors, explique.
Excusez-moi. Okay. Après les brachot du matin, il y a un premier Kriyat Shema avec le premier paragraphe.
Qu'est-ce qu'il s'appelle les brachot du matin? Très bien.
Et après Ishtabah.
Tu vois, quelqu'un qui ne sait pas de quoi on a parlé n'a rien compris du tout. Essayez de vous exercer à ça. Quand vous expliquez quelque chose, expliquez de manière que ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit comprennent. Tu as compris?
C'est le talent d'un enseignant.
Hein?
C'est le talent d'un enseignant.
Non, non, c'est le talent d'Achille. Non, c'est entre parenthèses, si vous pouvez vous dire. Donc, je vais vous dire, parce que ça peut signifier que celui qui parle ne parle pas exactement. Il faut, bon, vous avez compris la règle, hein. On n'a pas le droit de dire quelque chose si ce n'est pas suffisamment clair pour que celui qui l'entende comprenne. D'abord, ce Yéfer Lichnoir a dit, vous connaissez cette mission, je change un peu le sens. Mais ça s'appelle Gnevat Da'at. J'ai beaucoup, souvent j'ai entendu des gens très sérieux, et parce qu'ils sont sérieux, ça impressionne. En général, ils ont des barbes d'ailleurs. Et puis ils disent des choses incompréhensibles, mais comme on sait qu'ils sont sérieux, on croit que ça a un sens. Je sais pas si c'est clair. Alors méfiez-vous de ça. Alors je reviens. D'ailleurs, c'est un enseignement favori du premier verset de notre paracha. Ve'ele amishpatim asher tasim mifnehem. On n'aura pas le temps ce soir d'étudier ce verset, mais on va le reprendre avec Rachid. Et là, ici, c'est une chose très importante. Et voici les paroles que tu placeras devant eux. Et le Midrash que cite Rachid à sa manière dit « Sima Befiem », ça veut dire « Il faut que tu places ces paroles devant eux de telle sorte qu'elles soient vraiment devant eux, qu'ils puissent s'en servir « Keshukhan Arur Lefnehem » comme une table dressée devant eux. D'où l'expression de « Shukhan Arur ». Est-ce que c'est clair? Et il faut toujours se méfier des gens qui parlent en faisant croire qu'ils savent plus que ce qu'ils disent. En général, ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Bon, bref, je reviens. C'est pas pour toi que je dis ça, Khalid. Alors, effectivement, je vais laisser de côté le Kriyat Shema du matin. Il y a un seul Kriyat Shema du soir. Il y a un premier Kriyat Shema qui est le Kriyat Shema Be'arbit, de Arvit, okay, le Kriyat Shema que l'on dit avant la Amida de la Tfila de Arvit. Ça, c'est ce Kriyat Shema-là qui réalise le commandement du verset Be'shovecha u'kumecha. Il y a un deuxième Kriyat Shema qu'on appelle Kriyat Shema Alamita, le Kriyat Shema qu'on dit au moment de s'endormir. J'espère que vous savez que ça existe. Okay. Avant de s'endormir, on dit un Kriyat Shema qui s'appelle Kriyat Shema Alamita. Faites bien attention, avec un tête, Mita, le lit. Parce qu'il y a aussi un Kriyat Shema à la Mita avec un table. D'ailleurs, il y a fait allusion quelque part. Non, c'est à la Mita, parce qu'on le dit pour l'agonisant. Et normalement, c'est lui qui doit le dire. Oui, non, mais l'expression, c'est à la Mita, c'est pas à la Mita. Et c'est d'ailleurs, je signale ça pour vous distinguer. Lorsqu'on fait une mitzvah, on ne sait pas toujours à quel verset on la rattache. Hein? Et d'ailleurs, il y a une marloquette, bon, je dis ça pour les plus érudits, il y a une controverse dès le début du Talmud, de savoir quel est le verset qui nous demande de dire Kriyat Shema. Il y a un premier enseignement qui est apparemment celui de la Halakha, je dis apparemment parce que la marloquette n'a jamais été close jusqu'à nos jours, c'est que c'est ce verset de Be'shovecha u'kumecha qui institue le Kriyat Shema. Il y a un deuxième enseignement qui désigne comme fondement de la mitzvah du Kriyat Shema, Vayaere, Vayboker, Yom Echad. Je ne croyais pas, les choses sont infantiles. Ça, j'ai pas le temps aujourd'hui de vous parler de cette mahloquette. C'est une mahloquette extrêmement importante. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça va nous prendre tout le temps de l'étude. Et alors voilà le premier enseignement. Tania, Tricha. Ama Rabbi Yoshua ben Lévi. Rabbi Yoshua ben Lévi enseigne. Afralpi shekara adam kriyat shema bebet haknesset. Bien que l'homme a déjà dit le kriyat shema de la synagogue, du bebet haknesset, okay, donc celui de Rabbi, mitzvah likroto al mitato, vous voyez que c'est al mitato, okay, c'est une mitzvah de le lire sur le lit, enfin au moment de se coucher, sur son lit. Et alors il y a une différence entre ici, faites bien attention au sens, le sens du mot de mitzvah ici. On est habitué au sens du mot de mitzvah que c'est un commandement de la Torah. Or, ici, le terme de mitzvah a un autre sens. C'est le deuxième sens que vous connaissez ici aussi. Quand quelqu'un fait une mitzvah, comme on dit, ça, tu feras une mitzvah, il a fait une mitzvah, une bonne action. Et on utilise le mot de mitzvah à la place de ma'asim tovim. Mais ça n'a pas le sens, le premier sens de mitzvah qui est la chova, obligation de réaliser un certain devoir. Ça c'est la mitzvah, premier sens, chova, obligation. La mitzvah, deuxième sens, c'est pas exactement les bonnes actions, ma'asim tovim, mais c'est du même monde que les bonnes actions, les vertus. Que c'est une mitzvah de faire ça. Est-ce que c'est clair, la différence? Faites bien attention, parce que ceux dont l'hébreu n'a pas été la langue maternelle font des confusions, risquent de confondre dans ces nuances des mots importants. Et alors, voilà ce que dit Rabbi Shimon ben Lévi. Bien qu'on a réalisé son devoir, la Tzet Midechova, on a accompli le commandement du Kriyat Shema au Bet HaKnesset, c'est une mitzvah, l'ikroto al mitato. Amar Rabbi Yossé, Maïkra, et Rabbi Yossé demande à propos de quel verset qui fonde cela, que à part la mitzvah du Kriyat Shema de Beshor Becha, il y a encore une autre mitzvah du Kriyat Shema à la mita, ça y est, c'est clair maintenant? Quel est le verset? Rigzu, Val de Hetaou, c'est un verset très difficile à traduire, on va y arriver au bout d'un quart d'heure, mais je vais vous donner plusieurs niveaux de lecture. Rigzu, Val de Hetaou, la première lecture, vous allez voir, on ne comprend rien, c'est un verset des psaumes. Rigzu, mettez-vous en colère. C'est ça que c'est rogues. Soyez brogues. Pas dans. Hein? Ah, ça, c'est dans le sens yiddish. Être brogues dans le sens yiddish. Qui se passe en hébreu moderne. Mais être brogues, c'est en colère. Ragzan, c'est un coléreux. Rigzu, Valtehetaou. Comment tu as dit?
Être fâché.
Être fâché, oui, c'est ça. Ça, c'est le sens yiddish. J'en pensais à ce qui s'est passé à la Knesset cet après-midi. Nous sommes un peuple de Ragzanim. Oui, Altahitaou, ne fautez pas. Imro Bilbafrem, parlez en votre cœur. Almishkaprem, sur vos couches. Vedom, c'est là. Et restez en silence, c'est là. Et je vais expliquer d'abord le mot de c'est là que vous avez à la fin de certains versets des psaumes. Dans les traductions en français, vous verrez, on vous met les psaumes en strophes, et puis entre les strophes, il y a Sela, S-E-L-A-H. Et certains traducteurs des psaumes en français disent pause. Et puis avec le temps, on oublie ce que ça voulait dire. Alors, je vais vous expliquer rapidement. C'était les Lévites qui chantaient les psaumes. Et entre les strophes de chaque psaume, il y avait une pause où les Lévites jouaient des instruments de musique sans chanter. Vous avez un mot araméen qui se rapproche du mot Sela, un mot arabe aussi d'ailleurs. C'est en araméen, on l'emploie au pluriel pour dire la prière, c'est Tselotin. Vous avez d'ailleurs des Juifs qui s'appellent Tselotin chez les Ashkenazim. C'était sûrement des descendants de Chazanim, des familles de Chazanim. C'est Tselotin avec Tzadeh. Okay? Mais en arabe, vous avez Sla, qui signifie la prière, pour ceux qui connaissent encore l'arabe. Quel arabe vous connaissez?
Tunisien.
Même en tunisien, c'est comme ça aussi.
Ma?
Ah, C'est-à-dire que c'était une pause pour la prière silencieuse. Voilà ce que je veux dire. Donc, mais dans tous les cas, le verset est très difficile à comprendre. On continue. Après, je reviendrai sur le verset. Im talmid chacham hu en tzarich. Mais si c'est un talmid chacham, cette mitzvah de dire le Kriyat Shema avant de s'endormir, il n'en a pas besoin. Qui pourrait expliquer ça? En tzarich, ce n'est pas nécessaire. Ça va prendre trop de temps, mais enfin, ça me paraît facile à expliquer.
Toute la journée, il vit la vérité de Dieu.
On peut le dire comme ça, mais c'est pas suffisant. Pourquoi? Et je vais t'expliquer la difficulté. Et qu'est-ce que ça peut faire un Talmid Chacham de prendre 3 secondes de plus avant de dormir et d'ajouter le Kriyat Shema pour faire comme les autres? C'est à peu près la même chose que vous. C'est pas la même chose que vous dites. Mais vous ne comprenez pas le problème d'exégèse qu'il y a ici. Il me dit que c'est une mitzvah de le dire. Mais si c'est un Talmid Chacham, il faut comprendre, d'après le sens de cette mitzvah. Qu'est-ce que c'est le sens de cette mitzvah? C'est d'affirmer que Dieu est un. Or, la Torah demande qu'on affirme que Dieu est un dans les moments de passage d'un monde à l'autre. Dans les moments de passage d'un monde à l'autre, il y a le danger de ce qu'on appelle en hébreu. Vous me laissez parler. De ce qu'on appelle en hébreu shtereshuyot, de penser à deux absolus, à deux souverainetés dans le monde, le dualisme. Et encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, pour nous les civilisés, on est très dilués, on ne se rend pas compte que le monde du jour et le monde de la nuit, ça n'a rien à voir. Mais il n'y a que les enfants qui le savent encore. Pourquoi les enfants ont peur de la nuit? Et quand vous avez un enfant qui a peur de la nuit, sachez que c'est lui qui est normal. Mais en tout cas, pour revenir au... Non, c'est vrai, il ne faut jamais faire peur aux enfants, en les envoyant exprès, pour, soi-disant pour les éduquer, avoir peur dans la nuit. Ne serait-ce que de passer d'une chambre à l'autre. Ces peurs d'enfants, c'est terrible. Mais enfin, d'ailleurs, dans ce Gemara, une page avant, une page après, la Gemara dit, si l'œil était capable de voir, on serait terrifié de ce qu'on voit. Et alors les enfants, je ne dis pas qu'ils voient, mais ils pressentent, ils savent. Donc, je reviens au sujet. Et alors, oubliez, sinon vous allez avoir des cauchemars. Et alors, c'est ce point-là qu'il faut mettre en évidence. Un Talmid Chacham n'a pas ce danger-là. Un Talmid Chacham vit dans l'esprit, je voudrais quelque chose de plus fort, vit dans la certitude permanente de l'unité de Dieu. Et bien, la différence entre un Talmid Chacham et Bour Amaret, c'est que le Talmid Chacham n'est pas en danger à ce niveau-là. Est-ce que c'est clair? Vous voyez que c'est un autre niveau qui est le sens du raisonnement du Talmud. C'est pas seulement le fait qu'un Talmud Chacham, il a tellement de pensées vraies dans la journée qu'il n'a pas besoin d'ajouter encore une pensée vraie avant de s'endormir. C'est toujours relié à la question posée. Ce danger du dualisme, le Talmud Chacham est au-delà. C'est ça un Talmud Chacham. C'est ça un Talmid Chacham. Le Talmid Chacham sait de qui il parle lorsqu'il parle du Dieu un. Parce qu'il est le Talmid Chacham. Lequel Chacham est le Talmid Chacham jusqu'à Moshe Rabbeinu. Il faut bien comprendre une chose. C'est pas seulement une question de modestie dans la politesse juive. Les Chachamim ne s'appellent pas Chachamim, sauf quand ils ne le sont pas. Ils s'appellent Talmidei Chachamim. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Parce que quelqu'un qui se prend pour un haram sans avoir eu de maître, c'est sûrement quelqu'un de bizarre. Mais c'est clair, un vrai haram, c'est un talmid d'un haram. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Bon, voilà ce que je veux mettre en évidence. Qu'est-ce que tu veux
dire? Il y a un autre texte dans le rapport qui parle justement du fait que le talmid haram peut être pris en angoisse, et ce qui peut le sortir de
l'angoisse. C'est pas un autre texte, c'est ce texte-là, on va le lire juste après. Tu vois, il faut te rappeler de ce que tu as. Et en ce qui concerne le problème de la raison pour laquelle on dit le Kriyat Shema à la Mita, le Talmid Chacham n'a pas à dire le Kriyat Shema pour cette raison-là. Tout de suite, la Gemara objecte. Ben c'est la suite. Je le dis dans la suite. Amar Abaye enseigne. Av Talmid Chacham, même un Talmid Chacham, mi ba'ele le memar hat psuka de rahame. Il a besoin. Même un Talmid Chacham a besoin de formuler un verset de prière. Rachamé, en araméen, c'est la prière. Rachamim. Les Bakesh Rachamim. En hébreu, ça se traduit demander miséricorde. Mais en araméen, ça veut dire prier. Kegon, comme par exemple, Beatra Afkid Rochi, c'est dans ta main que je confie mon esprit. Padita Oti Hashem Eleme. Tu m'as délivré Hashem, Dieu de vérité. Et c'est d'ailleurs le verset que l'on dit au moment du Kriyat Shema à la Mita Betav. Lorsque on dit Kriyat Shema pour un agonisant, on dit ce verset-là. Amar, et voilà, c'est à ce sujet, vous verrez dans la suite, il y a l'enseignement qui dit que le Kriyat Shema est comme une épée à double tranchant pour les mazikines, pour les dangers de la nuit. C'est à ça que tu fais allusion, ça. Mais distinguer les deux choses. Ce n'est pas pour la raison précédente de mitzvah l'ikroto al mitato. Pour cette raison-là, Ram ne, ça ne le concerne pas. Mais d'autre part, Dafka, parce qu'il est un Ram, il est vulnérable au danger des mazikines. Je n'ai pas parlé du mazikine. Tu as dit angoisse, ça peut être une sorte de mazikine. Les microbes aussi, j'ai dit les mazikines. Mais des dommages. Le principe est le suivant. Plus quelqu'un est évolué dans la vie spirituelle, plus il est vulnérable au danger de la vie spirituelle, c'est-à-dire, je schématise beaucoup, à la folie. Il y a énormément de liturgie, qu'on apprend du roi David d'ailleurs, de protection contre ces dangers. La folie, c'est pas tellement un peu grossier, d'atteinte à la vie de l'esprit. Le principe est le suivant. Plus un être est évolué, plus il est sensible aux atteintes de l'impureté. C'est tout à fait le contraire de ce qu'on voit chez les philosophes ou chez les chrétiens. La formule chez les chrétiens, c'est « tout est pur pour les purs ». Pour la Torah, c'est l'inverse. Pour les purs, tout est impur. Comprenez bien ça. Je crois que la règle est très simple. Ceux qui ont fait un peu de biologie savent que le problème est très compliqué, parce que vous avez des êtres monocellulaires même, qui sont vulnérables aussi au danger, mais plus un organisme est évolué, et plus il est vulnérable à la maladie. Est-ce que c'est clair? Donc, on s'en va dans ce sens. Donc, il n'y a pas de contradiction. On continue. Alors, si déjà, on a cité ce verset de Biadechav Kidruchi, on va citer un enseignement de Rish Lakish, de Rabbi Shimon, non, c'est ça, de Rabbi Shor ben Levi. Non, c'est un enseignement de Rish Lakish sur ce verset. Alors ici, le lien, c'est le contenu du verset. Non, c'est ça. Oui, je suis fatigué. On va citer un enseignement de Rabbi Shor ben Levi sur le premier verset de Rizou Vertachetaou Vertachetaou. On revient au sujet central. Amar Rabbi Levi Bachama. Amar Rabbi Shor ben Lakish. Donc Rabbi Levi Bar Chama a enseigné au nom de Shimon, de Rabbi Shimon ben Lakish, Rish Lakish, l'Erola Mirgizadam. Alors on va avoir la traduction du nom du verset des psaumes. C'est un sujet très important. L'Erola, dans tous les cas, Yargizadam, Yetzer Tov, Al Yetzer Harar, l'homme doit mettre en colère, littéralement, le Yetzer Tov, le bon penchant, contre le Yetzer Harar, contre le mauvais penchant, chez Neymar, puisqu'il est dit, Rizou, mettez-vous en colère et ne péchez pas. Il y a une contradiction apparente dans le verset, apparemment. Mettez-vous en colère et ne péchez pas, mais se mettre en colère, c'est un péché. La seule lecture possible, se mettre en colère et que ce n'est pas un péché, c'est de exciter, cherche encore un mot en français, vous allez m'aider, de mettre en état de... Plus que ça. Mettre en état de combat, d'agressivité, le Yetzer Tov contre le Yetzer Hara. Je vais donner d'abord la définition.
Dresser. Hein? Dresser.
Oui, mais dresser dans un sens très fort. Okay? Il y a, si vous voulez, la Torah n'aime pas les velléitaires, ceux qui disent toujours « je voudrais bien ». Il y a une grande différence entre la volonté et la velléité. Okay? Je voudrais bien, mais je ne peux pas. Je voudrais bien, mais... Dès qu'on entend ça, on sait qu'il ne veut pas vraiment. Parce que s'il voulait, il voudrait. Aimer, il voudrait bien, c'est autre chose. Vous avez compris la différence. Or, nous avons deux yetzarim. Il y a le penchant au bien, le penchant au mal. Et nous sommes constitués de ces deux penchants. Ça, c'est un thème du monothéisme hébreu extrêmement important. Il y a quatre doctrines par rapport à ce sujet. La difficulté, c'est de comprendre qui nous a donné le penchant au mal. Et alors, vous avez une première doctrine qui dit le penchant au bien nous vient de Dieu, mais le penchant au mal nous vient d'autre chose. Les uns disent le Satan, les autres disent la société. Il y a une deuxième théorie qui dira nous ne sommes constitués ni du penchant au bien, ni du penchant au mal. C'est pas constitutif de notre personne. Ça nous vient tant la tendance au bien que la tendance au mal, ça nous vient de l'extérieur. C'est pas inné, c'est adventice, comme disaient les philosophes, avec un mot latin traduit en français. C'est ajouté à la nature humaine. La première thèse dit que la nature humaine a reçu de Dieu le penchant au bien, mais le penchant au mal, il vient d'ailleurs. Rousseau, par exemple. Enfin, ce qu'on fait dire à Rousseau, parce qu'on parle de la société comme source de la tendance au mal. Une troisième thèse qui dira et c'est cette thèse qu'on aura dans la Gemara, que c'est intentionnellement que nous avons été créés avec le penchant au bien et avec le penchant au mal. Les deux sont constitutifs de notre personne. Et par conséquent, nous sommes devant une impasse à ce niveau-là. Les deux plateaux de la balance sont constamment en équilibre. Il y a autant de force en moi pour le bien qu'il y a de force en moi pour le mal. Donc résoudre le problème moral ne peut jamais se faire une fois pour toutes. C'est constamment qu'il faut faire triompher le penchant au bien contre le penchant au mal, c'est ce que dit le premier mot de la Gemara, l'Eolam. Constamment, l'Eolam, à jamais, dans tous les cas. Donc la seule manière de résoudre le problème moral au niveau de la bonne volonté, c'est d'ajouter un poids dans le plateau de la balance du bien, un poids qu'on aura pris dans le plateau de la balance du mal. Ça s'appelle la sublimation des tendances. C'est-à-dire on fait servir au bien une force, une pulsion qui, laissée naturellement, dans sa nature propre, servirait au mal. Voilà ce que dit le premier. Alors une minute. Donc, Rigzou, Valterekaou, retenez le raisonnement. Le seul niveau où se mettre en Rogues n'est pas une faute, c'est quand c'est une véhémence qui a pour objet de faire triompher le bien. Est-ce que c'est clair? Bon, alors c'est pas peine de passer plus de temps là. On continue. Im netzacho muta, s'il l'a vaincu, s'il a été capable de vaincre la tendance au mal, mutab, c'est très bien. Veim lav, et sinon, yasov la Torah, qui s'occupe de Torah. Alors déjà, ça commence à devenir difficile cet enseignement. Comme si la Torah ne vient qu'en second lieu, comme une espèce de... aidez-moi à trouver le mot. De... Oui, palliatif. À quelque chose qui a manqué, si on avait la force de la bonne volonté, ça suffirait. Mais voilà, ça n'a pas suffi. Alors on cède avec la Torah. C'est bizarre que la Gemara parle comme ça. Est-ce que c'est clair? Vous allez voir que c'est même très très bizarre. Mais comment c'est justifié par rapport au sujet, au verset « Sheneemar imru bilbal prem »« Parlez en votre cœur ». Là, c'est une des définitions de l'étude. « Imru bilbal prem »« Ve'ayu advarim ha'ele asher anochi mesarech ha'ayom alevavech »« Im netzacho mutav »« S'il l'a vaincu »« Ou yetzera » »« C'est bien » et sinon, il craque Kriyat Shema, qu'il lise le Kriyat Shema. Alors là, ça devient encore mystérieux. Si la Torah n'a pas suffi, eh bien qu'il lise le Kriyat Shema. Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on ne comprend pas. Ce n'est pas n'importe qui parle ici, c'est la Gemara. Hein? On continue. « Shenema al Mishka Prem » Et là, on est renvoyé à « Beshor Bechor Kumecha ». « Imro Bilba Prem Torah, mais al Mishka Prem » Qu'est-ce que c'est la Torah qui est dite sur le livre?